courant pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous diffusons le montage issu d'une présentation qui se déroulait à la librairie de l'Atelier aux deux rues du Jourdain dans le 20e arrondissement de Paris. Ouvrage intitulé « Petite histoire politique des banlieues françaises ». Dans cet ouvrage, Hassan Belmessous interroge les idées reçues et fantasmes associés aux quartiers populaires depuis les années 1970. Il décrit des zones de relégation dominées par la pauvreté et les humiliations sociales où l'application du droit commun ainsi que les promesses d'égalité républicaine sont restées lettres mortes. Hassan Belmessous est chercheur, auteur de nombreux ouvrages sur les questions urbaines dont Opération banlieue, comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises, Le nouveau bonheur français ou Le monde selon Disney et Mixité sociale, une imposture, retour sur un mythe français. Voilà, après cette petite introduction, on vous laisse donc écouter la présentation de l'ouvrage.
Première question pour commencer. En introduction, vous attaquez Willy Ronis, qui m'a fait assez rire parce que c'est un peu la star.
Je n'attaque pas.
Oui. Cette image fantasmée du Belleville, du Ménilmontant, comme un endroit qui était hyper mignon, hyper joli, un espèce de petit paradis populaire qui aurait été perdu à jamais, c'est quelque chose qui existe beaucoup ici. Le but de votre livre, c'est justement de sortir de cette histoire mythologique qui est un peu le drame originel, parce que du coup, c'est à partir de là où tout a foiré, parce qu'on a construit cette image de mixité sociale.
Moi, je suis chercheur et écrivain. J'ai longtemps écrit pour le Monde diplomatique, avec lequel je suis fâché, éditorialement. Je collabore à la revue Esprit, pour laquelle j'ai donné un article ce mois-ci qui s'appelle « Les banlieues populaires ne voteront plus ». Ça donne une orientation, de mon point de vue, au sens du livre. Je travaille, moi, sur la ville, mais la ville au sens politique, c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste d'architecture, je ne suis pas un spécialiste d'urbanisme, je ne suis pas un sociologue. Et ce qui m'intéresse, c'est la question politique. Je travaille aussi bien sur les banlieues favorisées que les banlieues défavorisées. Paris a toujours été une ville qui n'est pas socialement mixte, comme toutes les villes. D'ailleurs, c'est un des ouvrages que j'avais publié en 2006. Ça s'appelait « Mixité sociale, une imposture française ». Les villes n'ont jamais été mixtes. Paris n'a jamais été mixte. Populaire, oui. Mais après, toute la question est de à quelle échelle on met la mixité. Est-ce que la mixité, c'est ici? Est-ce que c'est la rue là? Est-ce que c'est dans un immeuble? Est-ce que c'est... Et donc, je travaille sur la ville au sens politique du terme. Alors, pour revenir à votre question... En fait, l'objet de ce livre, c'est mon dernier livre sur les banlieues populaires. J'en ai fait 4, je ne veux plus en faire parce que j'estime qu'à un moment, on n'a plus rien à dire. J'ai souhaité essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les habitants des banlieues populaires ont décidé de s'échapper de la vie démocratique française. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne votent plus? Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont décitoyennisés? Et en même temps, reprendre le contre-pied de les banlieues populaires, finalement, elles ont toujours été la ligne de fracture des campagnes présidentielles françaises depuis 1988. À partir de 1995, rappelez-vous, c'était les violences urbaines. À partir de campagne de 2002, quand Le Pen arrive au deuxième tour, elle fracture le pays en continu avec les violences urbaines, l'immigration, et à cela s'ajoute l'islam. On sortait des attentats de 2001 aux États-Unis, et cette emprise finalement du discours salafiste à travers le discours des talibans. On arrive à 2007-2012, on a ajouté une couche supplémentaire dans cette vision monolithique des banlieues, c'est-à-dire c'est le lieu des violences urbaines, c'est le lieu, du moins c'est de l'anti-France, submergée par l'immigration, c'est des banlieues qui sont mangées par l'islamisme. Le voile dans l'espace public, ça a démarré, rappelez-vous, en 89, du moins démarré dans l'espace médiatique, à travers ce qui s'était passé à Creil en septembre, octobre 89. Et là, on est dans quelque chose, la question du voile dans l'espace public. Et à partir de 2012, avec une accélération en 2017, les banlieues, finalement, sont définitivement les fossoyeurs de la France, puisqu'elles préfigurent le grand remplacement. Voilà, mon postulat de départ, c'était d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser ce qui s'est joué. Et je pense, et c'est pour ça que je me suis tenu à deux temporalités, 1975-1977, le lancement des politiques de la ville, c'était sous un gouvernement de droite, la France était présidée par Giscard à travers l'opération Habitat Social, et 2005, qui pour moi marque les derniers soubresauts, les dernières, à travers ce que j'avais travaillé dessus, les révoltes sociales. Et aujourd'hui, donc depuis 2005 à aujourd'hui, que les gens n'y votent pas, que la discrimination opère toujours fortement, que les gens se battent pour en sortir. Je n'ai pas fait de recherche pour travailler là-dessus. Je me suis appuyé uniquement sur les archives. Ça m'a pris plus de 2 ans, parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas de politique d'archivage déjà en France, très peu, et surtout s'agissant des banlieues, parce que les archives finalement, elles témoignent de l'histoire des politiques publiques, elles témoignent des jeux des acteurs, elles témoignent finalement de la vie de ces lieux-là. Il m'a semblé que pour démystifier certains présupposés, il fallait d'abord regarder à l'intérieur des politiques telles qu'elles ont été décidées localement et nationalement.
À chaque fois qu'on allume la radio ou la télé, on a l'impression que les quartiers populaires sont des zones de non-droit, des territoires perdus de la République, des séparatismes, ou en gros une espèce de Far West qui est peuplé soit de bandits, soit de djihadistes, en fonction des lubies du moment, en oubliant qu'en fait c'est des lieux qui sont saturés de pouvoir public à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Le logement est public, il y a des offices de HLM qui vont décider si telle personne va à tel endroit. Et qu'en fait du coup c'est assez marrant que tous les responsables politiques surverbalisent leur impuissance alors qu'ils jouent dans tous les sens. Comment vous travaillez justement cette espèce d'opposition sur le temps long ?
D'abord, mon travail, j'ai décidé de l'engager. C'est pas un travail exhaustif, entendons-nous bien. Et c'est pas un travail qui focalise uniquement sur ce territoire hyper médiatisé qui est la Seine-Saint-Denis. Parce que sinon, on est dans quelque chose finalement qui grossit une réalité qui est un peu plus nuancée. Donc j'ai décidé de m'atteler à travailler sur les archives de toutes les communes qui ont été médiatisées depuis 1981, les premières révoltes sociales. Les communes de l'Est lyonnais, les communes qui ont été médiatisées aussi, qui ont des grands ensembles sociaux à travers l'émergence du Front National. Donc je travaille sur les archives de Dreux, parce que j'ai fait de la recherche à la Grande Borne à Grigny, la Courneuve, donc j'avais des entrées. Je me suis intéressé évidemment aux villes qui sont, j'allais dire, certaines en post-gentrification. Ils sont donc Montreuil, Saint-Ouen, un petit peu Aubervilliers, beaucoup. Bon, il y en a d'autres, Mantes-la-Jolie, parce que les villes qui ont été hyper médiatisées à travers des événements, Mantes-la-Jolie, c'était quand même deux jeunes et une femme policière. Rappelez-vous cet événement en 1991. Voilà, je voulais reprendre un petit peu ce fil-là. Et donc j'ai été très rapidement confronté à cette chose insondable en France, c'est-à-dire la question des archives. La loi, elle est très claire en France. Tout élu n'est pas propriétaire de ses archives, qu'il soit élu local j'inclus le département et la région, et élu national. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Vous allez par exemple à Mantes-la-Jolie, Pierre Bédier, qui était maire entre 97, qui est toujours maire, malgré sa condamnation, il tient le département, n'a fait aucun versement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impunité. Vous allez à Vénissieux, au Minguette, c'est pareil. c'est quand même ici qu'il y a eu la seule marche civique en France, hein, la marche contre le racisme et les violences policières en 1983. L'unique marche civique qui a eu dans l'histoire des marches civiques françaises. Et donc, il n'y a quasiment pas d'archives qui ont été conservées. Alors, on va vous dire, il n'y a pas de politique d'archivage parce que tout le monde n'est pas rompu, finalement, à cette logique-là. Or, encore une fois, les textes de loi sont très clairs et c'est des condamnations pénales si jamais il y a des plaintes qui sont déposées. Non, mais on est vraiment, les choses sont très sérieuses. Hein. Et heureusement, donc, j'ai pu m'appuyer sur les archives de la Caisse des dépôts et consignations, qui est le financeur du logement social, financeur des actions sociales aussi, et qui, à travers ICAD, est investi également dans l'immobilier privé. Ensuite, j'ai décidé de travailler en thématisant. Thématiser, c'est-à-dire, mes entrées, c'était les entrées d'abord les plus évidentes. Le logement social, la police, l'islam, évidemment, les partis qui ont géré ces lieux-là, donc le Parti communiste et le Parti socialiste, la droite aussi, parce que c'est quand même un angle mort de la politique des banlieues populaires. Faites une bibliographie de tout ce qui a été publié et vous vous rendez compte qu'il y a très peu de choses sur la gestion par les gouvernements de droite des banlieues populaires. À croire que soit on considère que c'est une chasse gardée de la gauche et c'est une affaire de gauche, ce qui est un non-sens total. Et surtout, dans la période 77-95, j'ai compté que la droite a gouverné le pays autant que la gauche. Or, ce sont des politiques publiques nationales. Qu'est-ce qui fait qu'on analyse l'histoire politique des banlieues populaires uniquement à travers le prisme de leur gestion, de leur gouvernance par la gauche? C'est intéressant, ça. Et pourtant, c'est la droite qui a impulsé toutes les politiques. Et cette impulsion, finalement, a été même soutenue par les partis de gauche. J'ai aussi fait des entretiens avec des gens qui étaient en responsabilité. Ces gens-là qui sont à la retraite, certains m'ont donné des archives. Je pense entre autres à l'archive de Pierre Saragoussi, qui était à la Caisse des dépôts, qui était conseiller de Robert Lion, qui était le premier directeur de cabinet de Pierre Mauroy entre 81 et 84. Et cette note, elle est formidable. Parce que dès 83, il dit « On est plus que dans l'urgence, on a perdu ». Mais dès 83, il considère que la gauche n'a pas compris ce qui se passe. Les quartiers populaires sont déjà des quartiers perdus. Donc quand les médias, quand les journalistes néoconservateurs, une partie de la recherche a commencé, je pense à Emmanuel Brunner, etc., les quartiers perdus de la République, tenus par un éditeur qui s'appelle Mille et une nuits, à partir de fin des années 90, les territoires perdus de la République, mais ils étaient déjà cyniquement perdus.
Depuis les années 70, ce qui fait le trait d'union entre tous les gouvernants locaux et nationaux, c'est que dans les quartiers populaires, il y a des gens qui sont issus de l'immigration que les gouvernants ne veulent pas qu'ils existent. Vous vous racontez très bien que depuis le début, ils sont pensés comme transitoires. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous vous rappelez aussi que les catégories utilisées sont transitoires. Jeunes comme catégorie transitoire parce qu'on n'est pas encore enfant et on n'est pas encore adulte. Immigrés comme transitoire parce qu'on n'est pas étranger et on n'est pas français. Et qu'en fait, du coup, cette espèce de transition est essentialisée pour en faire un peu une population qu'on est obligé de gouverner, mais tout en maintenant en extériorité, et qu'on n'en veut pas. Et qu'en fait, vous racontez très bien comment il y a une espèce de jeu de ping-pong entre l'État local, l'État national, et ça, peu importe les pseudo-identités politiques ou électorales. Notamment, vous racontez très bien comment Paris se sert de la Courneuve pour envoyer plein de monde, comment c'est le maire de Lyon qui explique au préfet, qui quand même normalement représente l'État, qu'il y a une loi qui lui interdit de prendre des étrangers dans les HLM, et le préfet, il fait « bah non, cette loi n'existe pas ».
Dans les années 60, on est là. D'abord, je n'ethnicise pas. C'est-à-dire que d'abord, le rejet, c'était le rejet des pauvres. C'était d'abord des quartiers de pauvres. D'accord ? C'était pas des quartiers qui ont été d'emblée investis par les populations venues du Maghreb au départ. Et d'ailleurs, les discriminations, elles frappent tous les pauvres qui ne sont pas français de nationalité au départ. C'est-à-dire que quand vous regardez un petit peu le peuplement de Sarcelles, qui est le premier ensemble dans le Val d'Oise, vous aviez le bâtiment des Espagnols, le bâtiment des Portugais, des Français des dom-toms, parce qu'ils sont considérés comme étant d'abord noirs des dom-toms avant d'être considérés français comme ceux de la métropole, donc ils ne sont pas français du tout, etc., etc. Et effectivement, là-dessus, c'est greffé. En plus de ces ghettos de pauvres, c'est pour ça que quand on me dit ce sont des ghettos, j'ai dit oui, d'abord, je dis de pauvres. Des ghettos de pauvres, point à la ligne. Et personne ne veut de ghettos de pauvres. De toute façon, la droite, au départ, quand elle conteste les grands ensembles, alors que c'est C'est la droite qui a construit, qui a lancé le programme des grands ensembles à travers un décret de 1958. La Constitution venait à peine d'être votée. Parce qu'il fallait évidemment lutter contre l'habitat insalubre, éradiquer les bidonvilles et entrer dans la France moderne aussi. Reconstruire la France, c'était reconstruire aussi un pays qui soit à l'image du dynamisme voulu par sa classe politique, et entre autres De Gaulle, la grandeur de la France. Donc qu'est-ce qu'on fait les pauvres? Et en plus, quand la droite a infléchi son idéologie en matière de perception des classes sociales, c'est-à-dire que elle a considéré que, de toute façon, dans la France moderne, les classes populaires n'étaient pas. Point. La phrase s'arrête là, à ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rejeter à l'extérieur, d'abord, ces Français-là. Et donc, avec, en 72, en 73, l'arrêt de construction des grands ensembles. Parce qu'il y a quand même un enjeu économique. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été construit? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est en cours de construction? On passe du ghetto de pauvres au ghetto de pauvres ethnicisés. Donc, les Maghrébins, qu'on a au départ rejetés parce qu'ils étaient empêchés d'y emménager, et c'est ce que vous disiez, à Lyon, mais pas seulement. Ensuite, le choix qui a été fait, c'est celui de l'enfermement social, la relégation sociale. C'est-à-dire que vous prenez la Grande Borne, on est dans l'Essonne, jeune département, la ligne D du RER est à 2 km. La cité, pourtant construite par un architecte extrêmement fin, un architecte extrêmement soucieux finalement de la vie sociale, qui s'appelle Émile Ayot, qui avait fantasmé sur la ville des enfants. Il a été mangé, son projet, par plus cynique que les enfants, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. La Grande Borne, qui au début des années 90, avait ses routes qui n'étaient pas terminées, donc les gens marchaient dans la boue. Toutes les classes moyennes qui sont arrivées à la fin des années 60, elles sont parties, les enseignants, instituteurs, la petite classe moyenne, etc., sans que le petit classe moyenne soit péjoratif, répondant à l'appel de l'achat du pavillon, Maison Phénix, Tartampion, etc. C'était sous Albin Chalandon, 73. Ces gens-là ont été captés par le discours idéologique autour de la maison individuelle. Et face à ça, eh bien, on a poussé les familles d'origine maghrébine à s'y installer, sans l'organiser politiquement. Et donc on arrive à 81, et ça pète. Quand il y a cette manifestation à l'été 81 au Minguette, ils manifestent contre les violences policières, d'abord, et ensuite ils manifestent pour le droit commun, pour une reconnaissance de même, contre les discriminations. Or, comment c'est relaté? Aussi bien par les médias de gauche que par les médias conservateurs, comme les Minguettes, quartiers immigrés, on fait finalement une sorte de rite initiatique, on prend des bagnoles, on tourne autour du quartier et on met le feu. Donc c'est une vision tribale finalement d'une contestation. Donc dès l'origine, il y a une lecture qui s'est plaquée là-dessus. Résultat, quand eux demandaient de l'égalité et une reconnaissance sociale, on a considéré que finalement on était dans quelque chose qui échappait à l'histoire française, pour reprendre Zemmour. Lentement, on va finalement créer les conditions d'un lieu qui est le domaine de l'étrangeté. Et donc, le lieu des étrangers va devenir un lieu étrange pour finir par devenir une enclave étrangère aujourd'hui. La sociologie urbaine a beaucoup travaillé, a beaucoup enquêté, beaucoup investigué. En 91, je passe 7 mois à la Grande Borne et en 90, 6 mois à la Cité Balzac à Vitry pour ce travail de recherche sur les révoltes sociales de 2005 pour voir ce qu'il en restait. La question que je me suis posée, c'est que je me pose toujours, c'est la pertinence des sources qu'on a utilisées. Je tombe sur une archive où le conseiller du maire de la Courneuve, James Marson, donc le maire, qui n'est plus maire depuis, je crois, Poux arrive en 85, il lui explique que les 4000, bah c'est peut-être foutu, quoi. Non, mais quand je dis que c'est foutu, c'est pas Saragussi qui est conseiller du directeur de cabinet du Premier ministre, non. Mais là, on est à l'échelle de la Courneuve. Il dit, premièrement, beaucoup de camarades sont partis. D'ailleurs, il y en a qui habitent là, mais ils ont des maisons secondaires. Il parle des camarades communistes. Non pas qu'ils soient bourgeoisés, mais ils sont partis, ça y est. Ils sont tertiarisés, comme la société française est devenue, avait une économie qui se tertiarisait. Deuxièmement, les militants ont du mal à échanger avec les jeunes. Troisièmement, ces jeunes ne respectent pas nos militants. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes référents idéologiques. En plus, ils sont bruyants. Et en plus, ils contestent au lieu de discuter. Or, il faut discuter avec l'État, avec la police, avec le bailleur, etc. On est dans une impasse. Et d'ailleurs, de plus en plus veulent partir. Et ceux qui ne veulent pas partir, on est en train de les perdre parce qu'ils votent FN. C'est la lettre de... Ça veut dire qu'il y a un divorce. La marche des beurs, telle qu'elle a été finalement identifiée dans les médias, c'est Libération hein, qui titre Paris sur beurre en 1983. Et là, je cite Christian Delorme, hein, prêtre des minguettes entre guillemets, il n'était pas prêtre des minguettes, mais bon, voilà, c'est lui qui est un des initiateurs. Il dit, dénoncer la police, contester, machin et tout. Et si, réfléchissez, peut-être que vous pourriez vous faire entendre en faisant une marche. Ça part de là. Là-dessus, il y a Toumi Djedja, qui est un des jeunes aussi, qui reçoit une balle d'un policier. Et donc, il est entre la vie et la mort. Et là-dessus, donc, ça part. Bon, voilà. Après, il y a tout un contexte, etc., que j'explicite dans le livre. Mais ce que dit Delorme, c'est qu'au départ, c'était ça. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une initiative citoyenne. On existe, on est là, on n'a pas de boulot, on n'a pas de culture, on nous relègue. Et en plus, on est finalement... notre vie sociale, elle est écrasée par les méthodes policières. C'est une contestation politique. Et quand la marche a lieu, elle devient folklorisée. Folklorisée à la fois par les médias, une partie des médias, rendue inaudible par les syndicats, etc., de gauche, et par aussi les associations immigrées, qui, elles, se disaient « Nous, on va se battre pour la carte de résidence à 10 ans, on va se battre pour ces trucs-là. » Alors qu'ils étaient français, je cite là Delorme, quand ils se retrouvent dans le bureau de Mitterrand, président de la République, ils étaient complètement ébahis à une revendication politique et un vœu de droit commun. On leur répond « On va vous donner la carte de 10 ans. » D'ailleurs, j'en ai parlé avec le président de la République algérienne la semaine dernière, ou je ne sais quoi. Donc on est encore une fois que dans des procos et des contresens. Et enfin, comment on les appelle? Eux, ben, ils se cherchent, et beurre tout à coup. Et le beurre, ben, finalement, c'est la réponse du Parti Socialiste à l'émergence du Front National.
Oh, mouchouilleur. Pour tout pays arabe, ou targoul bombette, à la naisse et moujirimi, n'a cru que le soldat, à la ouf et tayarat, ou fait les idées à Simon.
D'écouter la présentation de l'ouvrage de Hassen Belmissous, Petite histoire politique des banlieues françaises.
Et la réponse poétique qui est faite, c'est « Moi, blanc, tu ne touches pas à mon pote qui n'est pas blanc ». Enfin, du coup, en fait, comment les gens qui essayent de s'organiser, de bouger, sont de un, folklorisés, mais surtout renvoyés à des statuts d'objets, quoi.
Et ils ont perdu.
Ouais.
Ils rentrent au quartier, au Minguet, on leur dit « Alors, qu'est-ce que vous avez gagné ?» Rien. Alors après, rappelez-vous, la marche civique, c'était pas que des gens, des Français d'origine maghrébine. Hein. C'était des mobilisations, des débats dans un certain nombre de villes, etc. Il y avait une sorte de bouillonnement qui était très peu, d'ailleurs, quand on regarde les archives, très peu relaté par les médias. Après, il y a quelque chose en France qu'on appelle la hiérarchie de la formation. Tout ce qui n'est pas à Paris n'est pas. Dès lors que les partis politiques ont contesté, finalement, leur légitimité. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le maire de Vénissieux. Il dit... On n'a pas compris ce qui s'est passé. Nous, on a considéré qu'ils entachaient l'image de Vénissieux. Nous, communistes, on faisait le boulot, etc. Donc, on a fait silence sur ce qui s'est passé. Et quand eux reviennent, eh bien, finalement, ils ont eu... À la fois, ils avaient déjà vécu le procès en illégitimation à travers la folklorisation de ce qu'ils ont fait dans le champ national. Et quand ils arrivent chez eux, eh bien, ils ne sont plus rien. Parce qu'ils n'ont rien gagné. Et tout s'arrête en 83. En fait, le livre aurait pu s'arrêter en 83.
Et justement, sur la continuité de 83 à nos jours, vous faites un peu une typologie des formes de réaction et de discours en fonction des nuances politiques, du coup, soit socialiste, soit communiste, soit de droite. Et il y a vraiment un petit jeu qui serait marrant de resituer les discours des uns et des autres maintenant par rapport à ce qu'ils disaient dans les années 80. Ça n'a pas changé. Hein. C'est impressionnant qu'on peut refaire des généalogies entre les communistes, entre les socialistes et entre les gens de droite, pour voir qu'en fait, il y a une même teneur. Je me permets juste de citer, parce que moi aussi étant montreuillois, « Nous ne pouvons admettre une concentration de travailleurs africains à Montreuil. Notre population ne toléra pas légitimement, ne fût sur le plan de l'ordre public, une telle perspective est inimaginable. Déjà, certains symptômes prouvent que nous avons atteint un seuil dangereux. » Là, je saute quelques lignes. « Je suis absolument convaincu d'être, en l'occurrence, non seulement en accord avec la population montreuilloise, mais encore avec le bon sens et la logique. »
Quelle année, ça? C'était dans les années 80,
Les années 80, et c'est le archive municipale de Montreuil, lettre de Marcel Dufriche, maire de la ville au préfet, 73, maire communiste de Montreuil.
Dans ce livre, il y a beaucoup d'archives qui sont citées. Et je trouve qu'une archive, elle est intéressante dès lors qu'elle participe d'un développement intellectuel. Je peux vous dire que le livre n'est pas sorti, et il y a déjà des endroits où on me dit « On aimerait vous inviter, mais vous ne parlez pas d'islam. » Mais ce n'est pas des salafistes qui me disent ça, ce sont des élus. Ou d'autres me disent « On a des bonnes relations avec la police, là, parce que ce que vous dites de la police, là, ce que vous sortez, ça ne va pas. » Or, c'est uniquement des archives qui sont sorties. Si on regarde les choses, je distingue le PC du PS. Pourquoi? Parce que le PS, il a présidé le pays. Le PC, il a participé d'une politique jusqu'en 1984. Ensuite, je distingue le PC local, quand on travaille sur les archives, il a considéré que son électorat était un électorat qui était en train de lui échapper au profit de l'extrême droite. Mais quand bien même l'extrême droite n'était pas encore là, dans les années 70, il considérait que le français de l'usine n'aimait pas les Arabes. Quand j'avais travaillé, j'ai fait mon travail d'enquête sociale sur l'extrême droite au pouvoir. Moi, j'avais été invité par des gens de Visa, hein, les collectifs, et les gens de Visa me disaient « Vous ne pouvez pas vous imaginer ». Effectivement, le Parti communiste a toujours considéré que... D'abord, il ne faut pas oublier que le Parti communiste était contre l'indépendance de l'Algérie. Il y a aussi le fait colonial aussi. Alors, je l'évoque un peu parce que j'estime qu'il n'explique pas tout, mais il y a aussi un peu de ça. Le travailleur immigré, il prend... le boulot, il fait baisser les salaires et il prend le boulot des... voilà. Mais ça, c'est dit, ça. Ça, c'est écrit. Le PS, il a sa responsabilité, qui était le parti, finalement, qui avait le plus conscience. D'ailleurs, je cite, je crois que c'est Jean Le Garay qui dit, en février 81, donc avant que Mitterrand gagne, là, c'est pas possible, il va falloir faire ça, ça, ça. Et dès lors qu'il a gagné, eh bien, finalement, le Parti Socialiste a toujours considéré comme ces gens-là, d'abord, pas comme Français. Et Paul Picard, que je cite souvent, hein, le maire de Mantes-la-Jolie entre 77 et 95, lui dit, mes petits jeunes, mes petits Arabes, mes petits... Je ne sais plus, je le cite dans le journal L'Unité en 80, et ensuite à Revue Panoramique en 90-91. Donc ils ont une vision hyper paternaliste, qui mésestime les individus, et on est dans une vision moralisatrice. C'est comme les bailleurs sociaux qui disent on les met comme ça, etc., dans ce genre de trucs, parce que de toute façon, ils ne sont pas faits pour vivre dans du collectif. Ils ont des pratiques sociales, ils sont un peu folkloriques. Et il y a même, plus d'une fois, l'expression tribale, des tribus, etc., je les ai retrouvés dans des documents officiels. Et enfin, la droite a inventé la ville décomplexée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'étrangers. Et on l'assume. Et on considère que ces individus-là, finalement, quand bien même ils seraient méritants, parce que la droite, c'est elle qui a finalement enterré l'idée égalitaire, sur laquelle la gauche a illusionné les habitants des quartiers populaires. Et là, j'inclus tout le monde. L'égalité, c'est pas seulement une question d'origine. Hein. Mais quand bien même, c'est surtout les gens d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne qui sont les premiers discriminés. La droite, finalement, elle a fait en sorte qu'il y ait une sorte de consensus, à savoir que les habitants des quartiers populaires ne peuvent pas être considérés comme des citoyens puisqu'ils ne sont pas méritants. Donc on a inventé quelque chose qui s'appelle l'égalité des chances. C'était sous Sarkozy lors du le plan Espoir banlieue, hein, présenté en 2008 par Fred Amara et Christine Boutin. C'est-à-dire que l'État, ben, finalement, va donner des moyens aux plus méritants, sachant que malgré tout, il y aura toujours un plafond de verre citoyen.
Vous racontez très bien comment la police est devenue une institution souveraine dans les quartiers populaires, celle qui fait l'appui et le beau temps sur toutes les panels de la politique publique. Je trouve que le plus bel exemple que vous expliquez longuement, c'est cette histoire d'une flic qui meurt à Mantes-la-Jolie en 91. Il y a une policière qui est tuée, donc du coup son collègue panique, donc décide de tirer au hasard sur une voiture et tue quelqu'un. Et en fait les policiers arrivent et sont convaincus que le maire est responsable de l'assassinat de la policière et donc du coup décide de se venger sur le maire en le menaçant de mort tout simplement.
C'est le seul.
Ou alors il s'est vraiment tué depuis 20 ans comme vous l'avez dit.
Ah oui, il l'a jamais, Paul Picard ne l'a jamais révélé. Ça s'est passé en 91. Et il explique, hein, quand il arrivait dans un commissariat, il entendait « Allez, on va se faire les ratons, les bougnoules, etc. » Il va voir le commissaire, il dit « Mais qu'est-ce que ça ?» Il dit « Oui, mais c'est l'adrénaline, ils sont jeunes, comme ils ont peur. » Je crois que c'est l'un des plus gros échecs de la gauche. C'est-à-dire que quand Mitterrand gagne, la police nationale, qui est une police... très conservatrice, qui est une police qui encore avait dans ses effectifs beaucoup d'anciens beaucoup de pieds noirs, ou d'enfants de pieds noirs, donc qui avait des comptes à régler encore. Hein. Et donc, quand Mitterrand gagne, la gauche avait estimé qu'il fallait revoir les règles du contrôle d'identité. Et là, je trouve... Alors, c'est pas une archive, c'est un document que j'ai. Il se trouve que, un jour, je tombe dans un vide-grenier des documents de la police nationale dont quelqu'un se débarrassait. Et donc, il y a tout un chapitre, mais dans ces documents d'enseignement. Hein, mais j'avais... Et donc, on explique pourquoi, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand bien même l'État réglementerait les conditions d'un contrôle d'identité, ça restera toujours à l'appréciation de la police. Et que c'est ça, finalement, qui est décisif. Parce qu'il ne s'agit pas de réglementer, il s'agit de revoir fondamentalement les choses. Et donc, la gauche ayant fait le constat, parce que la police a manifesté, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que les policiers manifestaient sous les fenêtres de l'Élysée. Et donc, c'était finalement une contestation de la légitimité du président socialiste. Et comme Defer, qui était le ministre de l'Intérieur, Defer était très proche des policiers, d'ailleurs, Defer dit dès 81 à l'Assemblée nationale, je suis le ministre de la police. J'adopterai toujours la position de la police. C'est dans les archives de l'Assemblée nationale. Les choses, elles sont très claires. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, je le cite, celui, un ancien député du PS, qui proche de la Ligue des droits de l'homme, etc. Et donc il fait une note, et il a voulu créer une commission, etc. Mais vraiment un truc pour revoir la question du contrôle d'identité. Et ça a été bloqué jusque la veille des élections législatives de 93, que la gauche savait qu'elle perdait.
Jean-Michel
Belorget, voilà, conseiller d'État, etc. Pasqua arrive une semaine après, ça y est, c'était fini. L'histoire, la police, elle est lentement devenue, puisqu'il fallait quand même contenir ces lieux-là, l'unique interlocuteur des habitants des quartiers. C'est-à-dire qu'elle a commencé par faire de l'ordre public, ensuite elle a continué en tenant leur vie sociale, et enfin, elle organise leur urbanisme à travers les opérations de rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police dans certains quartiers est l'unique représentant de l'État, et de façon totalement impunie. D'ailleurs, quand il y a eu cette manifestation l'an dernier, là, en mai dernier, et là, quand ils manifestent en disant « de toute façon, l'ennemi, c'est la justice », c'est-à-dire que la justice sociale, c'est la justice policière.
Comment toutes les techniques de contre-insurrection, de tenir les gens à la fois par la violence armée, mais aussi en les assignant à une idée à la fois étrangère et à la fois gouvernable de Français musulmans pour la guerre d'Algérie, a complètement infusé tous les services de police et tous les services de l'État. Et qu'en fait, du coup, vous racontez aussi comment la fabrique de l'islam dans les quartiers populaire a été un instrument de gouvernementabilité culturalisant et essentialisant, tout en les mettant complètement en dehors du corps social. Et en fait, je vous racontais un peu aussi comment cette histoire-là a eu lieu un peu dans les...
Alors moi, je ne dis pas qu'il l'a fabriqué. D'abord, je ne suis pas islamologue. J'ai travaillé sur les questions d'islamisme. C'est une religion qui n'a pas été identifiée comme une religion française, puisque très longtemps réduite à un islam des caves, étant donné d'une part que... Et d'ailleurs, je cite Abdelaziz Al-Jawahiri, le responsable de la mosquée de Mantes-la-Ville, qui racontait que lorsqu'ils ont inauguré la mosquée de Mantes-la-Jolie, la première construite, il n'y avait pas assez de musulmans pratiquants au Val-Fouré pour l'ouvrir. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient musulmans durant la période du Ramadan. Les travailleurs immigrés étaient finalement intégrés au mode de vie social des ouvriers français, c'est-à-dire que ils picolaient, ils avaient une vie qui était une vie d'ouvriers maghrébins, mais français. Ils s'étaient assimilés culturellement, ils avaient une pratique religieuse quand ils retournaient au pays. Et le basculement, c'est l'échec de la marque. C'est pour ça que c'est très très important de reprendre les faits. À partir du moment où la demande de droit commun et d'une identité, finalement, du moins d'accès à la citoyenneté, n'a pas été reconnue, le facteur identitaire s'est inséré. Tariq Ramadan fait partie de ceux qui ont contesté, qui ont dénoncé dans les années 90, quand il allait beaucoup dans la région lyonnaise, c'est pas très loin, Genève, hein, où il habitait, pour dénoncer. N'oubliez pas votre foi, n'oubliez pas d'où vous venez, etc. Or, eux, n'oubliez pas, mais ils faisaient le distinguo entre être français et être croyant. Et l'islam, à ce moment-là, à partir de la fin des années 80, début des années 90, a été identifié par les pouvoirs publics, et surtout, il y a eu toute cette phase de contestation sociale, de colère sociale. J'utilise jamais le mot émeute parce que, en anglais, il a un sens, riot. Ça veut dire c'est une contestation, c'est une révolte sociale. En français, il est orienté dans une dimension délinquante. Donc quand on dit émeute, on dit casse, etc. Et finalement, on n'analyse pas. Voilà. Il y avait eu donc Vau-en-Velin 90, Mantes-la-Jolie 91, Sartrouville 91, etc. Tous ces morts. Bon, voilà. L'État a joué finalement cette carte cynique du fait religieux dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il en a fait des interlocuteurs. Moi, j'ai retrouvé des archives, par exemple, dans le quartier des Biscottes à Lille, où on vantait, du moins, vous lisez Le Point, Le Figaro, etc. L'islam, c'est extraordinaire. Les barbus ont fait la chasse aux dealers. Moi, mon propos, il n'est pas de dire c'était déjà des djihadistes en puissance, des terroristes en puissance. C'est pas ça, mon propos. Mon propos, il est d'essayer d'identifier cette évolution-là. Comment l'islam a pu passer à un instant T d'un acteur social finalement pacificateur, je l'utilise le mot dessein, des quartiers populaires, a ennemi de la République et insoluble dans la République française. Ennemi intérieur. Et donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. Le basculement, ça a été lorsque les jeunes, par exemple, sont retrouvés à Guantanamo, du moins sont retrouvés là-bas, et tous ceux qui se sont engagés politiquement, il y a eu beaucoup de jeunes d'origine maghrébine qui sont entrés au PS, qui ont été sur des listes en 1989, et qui ont été réduits par les socialistes, soit à faire de la figuration, donc à être là pour capter des voix de jeunes d'origine maghrébine, soit finalement on leur a donné des délégations à la jeunesse, à l'immigration, etc. Et je me souviens qu'Ali Salim Kasset, qui est décédé aujourd'hui, qui était à Roubaix, qui était médecin, un notable, quoi, il a eu à un moment une délégation concernant l'immigration. Il aurait pu être affaires sociales, santé, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est cet échec-là, finalement, de reconnaissance sociale comme étant comme des individus français qui ont des trajectoires ascendantes et qui ne revendiquaient que le droit commun. Après, il y a aussi le contexte international. Ceux qui sont revenus d'Algérie après la guerre civile algérienne qui a duré 10 ans, ceux qui sont revenus d'Afghanistan, de l'ex du Kosovo, voilà. Et l'État s'est retrouvé un jour, finalement, avec, dans ces quartiers, eh bien, alors, je précise, il n'y a pas de quartier salafiste en France. Il y a des lieux où il y a là où il y a moins d'État, là où il n'y a pas de politique, il n'y a pas de service public, donc il y a du vide. Le vide ne peut pas rester, finalement, tel quel. Donc, résultat, se substitue un autre acteur social. Et l'acteur social, c'est une association type, j'allais dire, salafiste, wahhabiste, ou ce qu'on veut. Alors, ils sont minoritaires, je maintiens là-dessus. Moi qui travaille sur Aubervilliers, je me souviens, Le Point a fait une, toutes ces villes qui vont tomber, qui vont devenir musulmanes. Aubervilliers est passé à droite. Aubervilliers. Donc, les faits contredisent, du moins, le réel contredit de toute façon toujours la fiction. Mais, effectivement, on en arrive aujourd'hui à cette situation qui est inquiétante pour les habitants. Dans plein d'endroits, je ne vois pas de blanc. Mais ce n'est pas du fait que les gens ont consenti à vivre dans une communauté à soi. Et moi, je refuse le fait de dire, voilà, après tout, si je vais ici, je vais dans un café, oui. Eh bien, c'est l'identité du même. Oui, sauf que la question, c'est celle de la mobilité sociale. Dès lors que vous concentrez des individus, dès lors que vous concentrez une classe sociale, dès lors, parce qu'on est toujours, et moi je maintiens que c'est une question de classe sociale, avant d'être une classe ethnique, d'accord? Et que, évidemment, le fait identitaire, il surabonde. Mais l'islam, en tant que tel, n'est que le résultat d'un échec politique, d'un abandon politique. Parce que l'idéologie actuelle, finalement, elle n'a pas besoin de forcer toutes les portes politiques, parce qu'il y a une sorte de consensus. Regardez où est-ce que les gens font campagne. Mélenchon, est-ce qu'il est allé dans les quartiers populaires? Non. Moi, j'ai passé 8 mois en résidence d'écriture quand j'étais au Murapèche. Je vous rappelle que le député du coin, c'est Alexis Corbière, que je n'ai jamais vu, excepté à la fête des Murapèches. Ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, on paye le prix de ça. Mais en même temps, restons lucides. J'ai eu une allocation de recherche, j'étais en Cisjordanie. Je sais ce que c'est qu'un checkpoint. Il n'y a pas de checkpoint pour entrer dans les quartiers. D'accord? La Courneuve, c'est pas Gaza. La Grande Borne, c'est pas Gaza. Faut pas se raconter d'histoire. Il y a un état social qui continue. Mais un état qui entretient, finalement, la relégation. Qui entretient la ségrégation. Parce qu'il y a deux révélateurs, finalement, dans l'étude des villes. Dans la ville néolibérale, c'est le logement et l'école. Je veux choisir mes voisins et je ne veux pas sacrifier mes enfants. Pour moi, ce sont les révélateurs les plus décisifs. Le reste, c'est pas très grave. D'accord ? Moi, j'ai 2 enfants. Eh ben, j'habitais dans un quartier bobo. Ça ne m'empêche pas qu'ils ont été dans l'école publique. Mais après, c'est une école bobo. Donc, je peux dire école publique, mais si je précise pas que c'est un quartier gentrifié, finalement, ça passe. Non, la réalité, c'est celle-là. Quand je suis au Murapèche, par exemple, voilà, j'ai aussi beaucoup de gens aisés, parce qu'en fait, des résidences d'écriture, ben, c'est ça. Eh bien, je découvre des gens qui me vantent Montreuil, etc., mais dont les enfants vont à l'école Montessori, 500 euros par mois. ou dans une école, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, c'est 500, on me dit, ouais, mais c'est moins cher, c'est 150 euros par mois. Je dis, ouais, mais généralement, les gens, ils ont peut-être deux enfants, quoi. Allez, si on se dit cette moyenne-là, c'est-à-dire 300 euros, on multiplie par 10, ça fait 3000. Oui, alors, et dans les quartiers, quand on me dit, ouais, mais vous vous rendez compte, il y a quand même aussi des Arabes qui mettent, je dis, mais c'est parce qu'ils sont comme les autres. Ils savent qu'il y a ce plafond de verre. Et quand bien même ils mettront leurs enfants dans le privé, il y aura toujours ce plafond de verre pour l'instant. Eh bien, ils sont prêts finalement à sacrifier leur épargne pour mettre leurs enfants dans ce type d'école. C'est un livre qui est extrêmement pessimiste. C'est pour ça que c'est mon dernier sur les banlieues populaires. Non, c'est extrêmement pessimiste parce qu'il n'y a aucune solution politique qui soit voulue. Parce que finalement, ça contente tout le monde, parce que si demain, l'État devait, les acteurs politiques et sociaux, se lançaient dans un programme d'ouverture de nos villes à tous ceux qui vivent dans les quartiers relégués, on ne s'en sortirait pas. Et je tiens quand même à préciser que l'un des quartiers les plus pauvres de France est à Paris, Saint-Marthe, dans le 13e, l'Observatoire des inégalités, avait identifié ce petit quartier, 3000 habitants. Eh bien, c'est le quartier en France où il y a le plus de gens qui vivent avec des minima sociaux. Donc, il ne faut pas aller très très loin. Il y a des poches de pauvreté partout. Et ça veut dire que si l'État se lançait de mener des politiques publiques et des politiques de droit commun, ça voudrait dire qu'il reverrait son mode d'organisation sociale, mais de fond en comble. La ville néolibérale, la ville décomplexée, c'est cette ville finalement qui s'arrange de tout, qui s'accommode de tout, et qui s'accommode tellement de tout qu'elle sait que sur le terrain, localement, tout le monde se contente de ça. Regardez la gentrification telle qu'elle se vit à Paris. Bastille, Belleville, partout. Et aujourd'hui Montreuil, et demain c'est pour ça que j'ai ce projet sur Paris, c'est que je pense que pour avoir écrit sur le Grand Paris, d'ailleurs le livre est là, je pense que quand Paris aura la taille suffisante, après 2024, on sera finalement avec des lieux, Pinay, Argenteuil, Montfermeil, etc., tout ce qui est en dehors du Grand Paris Express, seront finalement les lieux de contenance. Quand on a tout dit, quand les archives finalement révèlent l'insondable, l'inimaginable, c'est même pas à vous de vous dire on est dans l'intuitif, on est dans quelque chose qui finalement, est-ce que j'ai peut-être exagéré dans mes hypothèses, j'ai peut-être exagéré dans mes analyses, non, les choses elles étaient comme ça d'emblée. Alors quand c'est comme ça d'emblée, eh bien c'est implacable.
Justement, votre pessimisme qui se voit dès l'avant-propos et dès l'introduction, mais je trouvais que vous le poussiez un petit peu justement sur les actions civiques ou militantes des quartiers. J'ai trouvé un peu dommage que vous fassiez un bond de 83 à 2005 en traversant très rapidement et en disant bon, il y a 83, et après on arrive sur 2005 et donc Sarkozy 2005, et qu'entre temps vous n'évoquiez pas du tout certaines initiatives qui ont continué à se créer ou à se recréer dans les quartiers populaires. Je pense notamment au MIB. En fait, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est vrai qu'à vous lire, on a l'impression qu'il y a l'échec de 83, il y a les émeutes de 2005, et qu'entre-temps, il n'y a pas eu grand-chose. Et vous dites aussi que depuis 2005...
Il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Je vais être très clair avec vous. SOS Racisme n'a jamais existé dans les quartiers populaires.
Ça m'a surpris.
SOS Racisme n'a jamais existé. Les indigènes de la République n'ont jamais existé, si ce n'est dans la sphère médiatique et dans certaines universités. Je vous le dis parce que je me suis retrouvé à débattre. Ça ne veut pas dire que localement, il n'y a rien. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui se joue au niveau national. C'est-à-dire, qu'est-ce qui mobilise, qu'est-ce qui engage. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était prendre les marqueurs. C'est-à-dire que 83, c'est un échec, non pas de la faute des marcheurs, c'est un échec parce qu'il n'y a pas eu de réponse politique à ça. Et donc, les individus s'effacent. Finalement, encore une fois, dans le vide politique, il y a d'un côté, c'est le religieux, parce que c'est comme ça que c'est organisé, et de l'autre côté, c'est l'emprise policière. Point. Il y a eu des tentatives artificielles. L'une des plus fracassantes, c'est la tentative du NPA. Lorsque le NPA, en 2009, parce qu'ils se sont rendus compte, de toute façon, l'archive que vous citez, là, dont je parlais de le conseiller de Jess Marson, il dit il faut être honnête, dans les quartiers, nos prochains militants, c'est ces gens-là. Le problème, c'est que, est-ce que nous, on va reconnaître, nous, Parti communiste, on va reconnaître que les jeunes, ces jeunes-là, ce sera nos futurs militants et nos cadres dans les quartiers populaires, parce qu'ils habitent. Et il répond non, parce que le parti n'est pas prêt. Et le parti n'a jamais été prêt. Je cite Rachid Bousseta aussi, hein, à Argenteuil, qui dit, qui a été contesté. Il était maire adjoint, adjoint en sport entre 2008 et 2014. Et pareil, on le met au sport. Peut-être que je ne cite pas complètement cette archive. Et il estime que, parce que les jeunes, parce que le foot, parce que, etc. Alors que lui, il était responsable de l'antenne communiste du parti au niveau d'Argenteuil. Mais il n'a pas été reconnu comme tel. Pour revenir à 2009, le NPA, il y avait un peu cette idée, après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'agrégation des luttes? Il y avait un peu cette idée, palestiniens, banlieues, les quartiers, anti-mondialisation, etc., etc. Finalement, tout ça, ça peut faire plus qu'un Malmström, ça peut faire une sorte d'acteur social comme ça qui globalise toutes les luttes sociales. Voilà, il y avait un peu ça. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Beauvais discutait avec Tariq Ramadan. Et ça explose en 2009, quand ils sont retrouvés face à la question, face aux représentations. Ça explose pourquoi? Ils sont dans l'Hérault. Et la jeune femme qui est désignée tête de liste, elle porte un voile. Et ça, ça a été la rupture. Parce qu'ils se sont rendus compte que... Parce qu'en fait, ils avaient, dans ce territoire-là, eh bien, les militants, les représentants, eh bien, c'était des gens issus des quartiers populaires. Mais pas seulement, je ne suis même pas sûr qu'elle habitait... elle habitait un quartier populaire. Toujours est-il qu'elle était voilée. Or, dans l'imaginaire militant, il était hors de question que cette personne-là voilée, qu'elle représente l'identité du parti. Et donc, ça explose. C'est pour ça que j'arrête à 2005, parce que pour moi, après 2005, il ne s'est rien passé. Encore une fois, les manifestations contre la police, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui sont manifestés. La mobilisation n'était plus celle-là. Voilà. Il y a eu un abandon.
Là, vous parlez beaucoup de politique politicienne.
C'est ce que non, je ne parle pas de politique politique.
Si, parce que... J'ai fait partie du BIB, j'ai fait partie de pas mal de collectifs Justice pour, Abdel à Courneuve, Nasser à Châtenay-Malabry, parce que moi, je suis de Châtenay-Malabry, et c'est ce qui m'a introduit dans ma révolte et mon engagement politique. Et c'est vrai que c'est un peu la critique que j'allais faire, c'est qu'on reste vachement dans la politique politicienne dans ton discours. Non, mais je trouve, parce que si tu veux, le NPA, pas plus que les autres, ont été sur les quartiers. Donc y a cet abandon, et là c'est là où je te suis complètement, l'abandon du politique dans les quartiers populaires. Moi, j'habite, il se trouve, à Châtenay-Malabry, un quartier assez mixte. Et du coup, ça fonctionne relativement bien. Mais ceci dit, la politique a été désertée. Enfin, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'association. Tout est sous contrôle de la mairie, comme partout en banlieue. Et effectivement, la religion, elle sert à pacifier la jeunesse et les migrations. Il y a tout ça qui s'est installé aussi dans les banlieues aujourd'hui, hein, le clientélisme. Quand on est capable de distribuer et les emplois et les logements, forcément tout le monde ferme sa gueule. Sur les quartiers, si tu as une maison de jeunes, mais c'est la mairie qui paye, hein, les animateurs. Hein. Dès qu'ils bougent une oreille, ils se font jarter. Hein. D'ailleurs, ils n'ont même pas envie de bouger une oreille. Ils ont surtout envie de garder leur taf. Ils ont réussi à complètement assécher tout le réseau associatif indépendant. Il n'y a plus de salles, il n'y a plus d'endroits pour se réunir, il n'y a plus de panneaux d'affichage, il n'y a plus rien. Pas organiser des trucs dans ce cadre-là. Je veux dire, tous les pauvres ont été abandonnés. Aujourd'hui, on ne parle que des classes moyennes et des gens qui ont un taf, qui sont insérés, etc. Même là, c'est les pauvres qui dégagent. Les plus vulnérables, eh ben, ils tombent dans le fossé, on n'en a rien à secouer. Il y a eu des belles choses. Le MIP, c'était... Bon, après, tout le monde en fait une panacée. Ça s'est passé, il s'est passé des choses, il y a eu des luttes, il y a eu des liens entre différents quartiers, banlieues, sur toute la France. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. C'était quand même assez intéressant. Il y avait du militant aussi bien issu de l'immigration que des Français. Enfin, il y avait un mélange, il y avait une envie de changer le monde ensemble. Donc moi, je trouvais ça plutôt pas mal.
Et pour illustrer un peu plus ce dernier propos, on termine cette émission en vous diffusant un extrait d'une des archives du MIB intitulé Chronique du MIB, Voici les muraux d'Amarie.
C'est pas parce qu'il y a eu des émeutes d'ici de là que les problèmes ils ont été réglés. La seule façon de faire, c'est comme vous avez fait aujourd'hui. Vous avez manifesté. C'est de se regrouper, de continuer, pas la seule affaire. Et c'est dans le temps qu'on arrivera à régler le problème. C'est pas en faisant les coups furieux là, le temps d'un instant. Et ça profitera à qui? Genre les gens ils vont dire, ils vont priver, ils vont dire ouais on est des bonhommes. C'est pas ça être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est réfléchir, c'est travailler dans le temps et c'est de s'unir pour essayer d'agir dans, agir réellement sur les conditions de vie qu'on a.
Ils sont organisés avec des syndicats, ils sont pas très nombreux en vérité, ils sont 100 000 en France. Et ils sont pas tous d'accord, ils sont 100 000, mais sauf ils sont organisés eux. Ils sont organisés et ont des moyens de pression.
C'est passé lundi, ils sont arrivés à 6h du matin ici et ils ont commencé une grande opération de nettoyage. Ils ont commencé à enlever les banderoles vers 7h moins le quart, 7h. Et il faut voir qui est-ce qui les a retirés. On a appelé des gens du raid, hein, ceux qui interviennent dans des grosses opérations de terrorisme, ceux qui interviennent dans des grosses affaires de grand banditisme et tout. Ben, ils ont appelé le raid pour décoller 3 banderoles.
Voilà comment ils sont rentrés chez nous.
Ils ont mis tout ce que tu vois là, tout ça, bon maintenant c'est rangé et tout, mais tout ce que tu vois là était par terre.
Voilà le bordel qu'ils ont foutu. Ils
peuvent faire ce qu'ils veulent.
Dans ce combat, on est seul. On n'a ni la justice, ni la police, on n'a aucune institution, nous, de notre côté. Et pourtant, c'est nous qui disons la vérité. Je crois que les plus républicains d'entre eux, c'est bien nous.
Là, c'est ton prénom, c'est...
C'est pas mon prénom. Comité du soutien.
De soutien. Bouche qui bouche.
On ne peut pas donner un prénom?
Non, non.
J'ai besoin de donner...
Comité de soutien.
Comme prénom?
Ouais.
Mes commandants.
Je crois que les plus républicains d'entre eux, c'est bien nous.
Là, c'est ton prénom, c'est...
C'est pas mon prénom. Comité
de
soutien.
De soutien. Bouche qui bouche.
On ne peut pas donner un prénom?
Non, non.
J'ai besoin de donner...
Comité de soutien.
Comme prénom?
Ouais.
Mes commandants.
Attendu qu'il est constant, comme le démontrent les documents produits au débat, que l'association Bouche qui bouge, qui a failli à ses obligations, qu'elle a par voie de tract appelé à soutenir le mouvement d'agitation qui a suivi des incidents graves survenus courant mai 2002 dans la commune de Damary-les-Lys, et que par leur contenu et par leur parole opératoire, ils sont caractéristiques d'un trouble à l'ordre public et par conséquent illicites en leur commission. Que s'agissant d'y mettre un terme, il y a eu lieu d'ordonner la fermeture du local et d'assortir cette mesure d'une interdiction de pénétrer dans les lieux d'une
astreinte de 100 euros. On va faire un super truc.
Tu sais quoi?
J'en sors tout le monde. Regarde, là, les tables
et
les chaises.
Les tables et les chaises, on va se poser, on va s'asseoir, on va rester là.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est. Ça peut être à la fois quelque chose de. Ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.